Eh bien, c'est une joie pour moi aussi de me retrouver parmi vous pour cette petite tradition qui s'installe, mais on n'a pas dit combien de temps ça allait durer. Hein, mais pour le moment, début décembre, effectivement, je suis heureux d'être avec vous. Et pendant qu'on chantait, je me disais pourquoi toute la ville de Cavaillon n'est-elle pas là en même temps que nous pour chanter. On aimerait, n'est-ce pas? Ça poserait des problèmes techniques, mais tant pis. Tant pis. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce qui m'a conduit vers cette méditation, vers cette prédication, on pourrait dire c'est la question suivante. Que se passe-t-il quand ce qui arrive est le contraire de ce qu'on a demandé? Dis Seigneur, prépare ce voyage, fais que ça se passe bien, et hop, la voiture crève, il pleut. Ce sont des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Et quand je dis le pneu est crevé, ce n'est pas grand-chose, mais on a prié pour qu'il fasse beau, il pleut, on a prié pour qu'il n'y ait pas la guerre. Il y a la guerre. On a prié pour ne pas être malade, et quelquefois on est malade. On a prié pour guérir, et quelquefois on ne guérit pas. Et alors, qu'est-ce qu'on devient? Que devient notre foi? Évidemment, comme aumônier hospitalier, j'étais confronté à ce questionnement, n'est-ce pas? Quand on visite des personnes à prier pour aller à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, c'est qu'il y a eu déjà des déconvenues, des mauvaises nouvelles. Et voilà, il faut aller à l'hôpital. Ah bon, mais j'avais autre chose de prévu. C'est pas facile, n'est-ce pas? Voilà. Quelle est notre maturité? Quelle est notre reconnaissance? Quel est notre cri quand des choses comme cela arrivent? On a pensé que ce n'était pas possible, on a pensé que ça ne nous arriverait pas, et quelquefois ça peut arriver quand même. Alors, dans le psaume qu'on a entendu tout à l'heure, le psaume 145, j'ai choisi de relire quatre versets, voilà, qu'on a entendus, mais qu'on va réentendre. Quatre versets qui vont aussi introduire mon message. Je retiens le verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Bon, c'est écrit, c'est que c'est vrai. Hein, il soutient tous ceux qui tombent. Donc ça veut dire qu'il y en a qui tombent quand même. Mais il les soutient. Ah, voilà, on voit déjà que c'est pas forcément, ils tombent pas. C'est comme quand il est dit, pas un oiseau ne tombe que votre père ne le sache. Mais quand même, il tombe. Il a dit, les oiseaux tomberont jamais. Il dit, mais s'il tombe, le père le sait. Mais déjà, ça fait une différence, voyez. Si Dieu le sait, voilà, votre père sait ce dont vous avez besoin. Votre père sait. Et donc, s'il arrive quelque chose de fâcheux, mais que Dieu le sache, on peut dire, ça reste fâcheux, mais c'est quand même une grande différence. Hein, que si personne ne le sait, ou si juste quelques amis le savent, mais c'est tout. Si Dieu le sait, c'est déjà une grande différence. Bon. Tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Grande abondance. Le psaume 36 dit « les hommes et les bêtes ». Et moi qui aime les animaux, ça me touche. Hein. Donc ça, c'est l'abondance des bienfaits de Dieu. Verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Leurs cris? Mais pourquoi ils crient? Quand tout va bien, on ne crie pas. Pourquoi d'un coup, il est marqué, il crie? Voilà, quand un malheureux crie, mais un malheureux, s'il aime le Seigneur, il ne devrait pas crier. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un moment difficile, n'est-ce pas? Un moment d'inconfort, un moment... personne prie pour être en situation de crier. Voilà. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve. Ça veut dire qu'il le délivre. Mais comment il le délivre? Peut-être comme on a demandé, peut-être autrement qu'on a demandé. Peut-être autrement. Et quand même, l'Éternel le sauve. Voilà, je suis revenu sur ce psaume qu'on a entendu déjà et qui me paraît introduire. Et maintenant, je voudrais lire le psaume 13. Vous allez comprendre pourquoi je lis le psaume 13. Un psaume court, psaume de David, 6 versets. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Il dit pas un, il dit des soucis. Vous voyez, des fois ça arrive comme ça en rafale. Hein? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. C'est David. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. On dirait deux personnes différentes. Mais c'est la même personne. C'est le même David. C'est David qui passe un moment difficile apparemment. Et apparemment ça dure. C'est pas juste 3 minutes ou 3 heures. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Pourquoi ai-je continuellement des soucis dans mon âme? Et puis sans transition... Mais quand même, il a invoqué le Seigneur, vraiment, « Réponds-moi, Éternel, sans transition, quasiment, au verset 6, « J'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Et nous apprenons que dans la vie d'un chrétien, et là, il n'est pas dit que David a péché particulièrement, mais dans la vie d'un chrétien, eh bien, il peut y avoir des moments de détresse qui soient suivis par des moments d'allégresse. Mais on comprend que l'inverse est vrai aussi. Et que des moments d'allégresse peuvent être suivis de moments de détresse. Et donc, n'excluons pas dans nos vies, en tant que chrétiennes, pas comme David, mais mieux que David, on pourrait dire, hein, ayant des promesses encore plus excellentes, en quelque sorte, en tout cas des gages de l'exaucement de Dieu, eh bien, n'excluons pas comme David, d'avoir dans notre vie des moments, par quoi je vais commencer, d'allégresse et des moments de détresse, et des moments de détresse et des moments d'allégresse qui vont se succéder à un rythme qu'on ne va pas forcément maîtriser. Ça peut être 10 minutes de détresse et 10 minutes d'allégresse juste après. C'est possible, frères et sœurs, c'est possible. Mais ça peut être quelquefois des semaines. Et ça peut paraître long quelquefois. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Je vais lire maintenant, je vais passer directement à la deuxième lettre aux Corinthiens. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4. Donc là, c'est Paul qui parle, bien sûr. Et je lis les versets 7 à 9. Donc, 3 versets, je me référerai un petit peu à la suite, mais simplement ces 3 versets pour le moment. De Corinthiens 4, versets 7 à 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Mon message s'appelle des vases de terre. Des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés, oppressés, ou comment on pourrait dire, nous sommes sous des contraintes, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. J'arrête là ma lecture parce que, voilà, pour ne pas être trop long, et il y a de quoi dire, il y a de quoi dire déjà. On dirait, Paul dit, nous sommes dans la détresse. Il y a une erreur. Il y y a une erreur. Paul n'a pas été appelé par Jésus pour être dans la détresse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. En fait, il n'y a pas d'erreur. Et donc, c'est la continuité de ce que du psaume 13 et du psaume 145 et de tant d'autres passages de l'Écriture. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Le croyant fidèle peut tour à tour exprimer de la détresse et de la reconnaissance, comme je l'ai déjà dit. En fait, c'est l'esprit des béatitudes. Heureux ceux qui pleurent. Mais pourquoi ils pleurent ? Il vaudrait mieux qu'ils ne pleurent pas. Mais ils pleurent. Et il est dit, heureux ceux qui pleurent. Alors, c'est paradoxal. Ils sont heureux ou ils pleurent ? Ben, les deux. Ça me fait penser à un enfant qui est tombé ou à qui on a pris un jouet, on a cassé son jouet, il pleure. Sa maman vient le prendre dans ses bras. Et donc, il est consolé, il est heureux. Mais il pleure encore. Parce qu'il n'a plus son jouet, ou parce qu'il est tombé, il s'est fait mal au genou, il saigne encore un peu, il a une bosse. Donc il pleure, il est consolé. Il est consolé et il pleure. Vous voyez que c'est possible d'avoir les deux en même temps. Je suis sûr que vous avez vécu des situations comme ça déjà. Vous ne savez pas s'il faut pleurer ou vous réjouir. C'est les deux. Ça penche un peu d'un côté, ça penche un peu de l'autre. Mais c'est les deux. Heureux maintenant. Béatitude, c'est cela, hein? Heureux maintenant. Réjouissez-vous maintenant. Si vous êtes persécuté, maintenant, vous serez consolé. Quand ? Mais vous serez consolé un jour. Donc ça peut être dans 10 minutes, ça peut être dans 10 ans, ça peut être à la résurrection. C'est comme ça, vous serez consolé. Ça, c'est une promesse quand même. Mais le fait de savoir qu'on sera consolé nous console déjà. Je terminerai mon message en parlant de l'espérance, parce que c'est cela finalement. L'espérance, on n'a pas encore ce qu'on attend, mais le fait que ce soit une espérance, on l'a déjà. Hein? Le pauvre dit, je suis riche. Enfin, il est pauvre. Hein? Il est pauvre ou il est riche ? Et il dit, il est deux à la fois. Quoi. Il est pauvre et il est riche. Il est pauvre parce que c'est un vase de terre qui s'ébrèche doucement, surtout après 65 ans, donc vous verrez. Hein? Mais quand même, il a un grand trésor en lui. Donc il est pauvre et il est riche en même temps. Est-ce que ça vous parle ? Moi, ça me parle. Hein? Et je l'ai vu auprès de certains patients à l'hôpital. J'ai vu dans le regard, dans le cœur de certains patients à l'hôpital, et même de patients en fin de vie, une joie, dans certains cas, pas toujours. J'ai vu de la détresse, bien sûr. Mais j'ai vu quelquefois une joie que je ne verrais pas dans Cavaillon, si je traversais Cavaillon dans tous les sens, pendant toute la journée. Peut-être une joie que la personne n'a jamais eue tout au long de sa vie, avant ce moment-là. Parce que si Dieu dévoile son amour infini, sa grâce parfaite, sa lumière sans défaut, vous ne croyez pas qu'il y a une joie incroyable qui vient ? Que nul ne vous ravira votre joie. Jésus dit même, vous aurez en vous ma joie et ma joie est parfaite. C'est étonnant, il est décrit comme un homme de douleur. Alors, il y a un homme de douleur ou il y a une joie parfaite ? Frères et sœurs, c'est les deux. Et beaucoup de chrétiens le vivent et nous le vivons aussi. Je suis sûr de cela, mais c'est important de savoir que la Bible en parle, que d'autres l'ont vécu avant nous, que d'autres le vivent avec nous, afin que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet. Et que l'ennemi ne nous ravisse pas cette joie qui nous a été accordée. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur. Heureux ceux qui pleurent, il n'y a pas d'erreur. C'est l'esprit de la prophétie biblique, hein? C'est-à-dire ce que Dieu a promis est déjà en train d'être exaucé, n'est-ce pas ? Voilà, ce que Dieu a promis pour plus tard. Jésus est en train de revenir et il est déjà là. Et nous l'attendons encore. Eh bien, il nous faut comprendre cela, surtout dans une période où on veut tout de suite. Hein. Tout de suite ou jamais. Vous voyez, tout de suite ou jamais. Je ne vais pas parler du GIEC parce que je m'écarterai de mon sujet, mais on pourrait en parler, vous voyez. Voilà. L'histoire à courte distance. Hein. Voilà. Il ne reste que quelques décennies à vivre, après c'est terminé. Vous voyez, l'absence d'espérance. Vous voyez ce que ça génère comme anxiété, comme affolement, et peut-être comme bêtise surajoutée. Voilà. Le salut est déjà là et il est encore attendu. Il faut comprendre cela. À une époque, encore une fois, on appuie sur un bouton, on a ce qu'on a demandé, n'est-ce pas? Eh bien, le salut, il est déjà là et il est encore attendu. Et là, j'en viens tout simplement à ce que Paul écrit, qui me touche beaucoup, je dois dire. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Donc, être pressé de toute manière, ça veut dire dans l'adversité, devant des besoins qui ne cessent pas d'affluer, devant des problèmes qui s'accumulent, devant des listes de difficultés qui sont infinies, devant des intimidations, devant des tentations, devant des pièges qui nous sont tendus, devant des discours contradictoires. Enfin, voilà, nous sommes pressés de toute manière. C'est pas le rêve, n'est-ce pas? C'est pas le rêve d'être pressé de toute manière. Et souvent dans la vie, on se dit, mais quand ça va cesser? Quand ça va cesser? Ben, ça peut cesser un petit moment, mais rapidement, il y a encore autre chose qui vient. Hein? Avec les enfants, c'est comme ça, dans les couples, c'est comme ça, et à l'école, c'est comme ça. C'est une récré, ça dure 10 minutes, après, il faut reprendre le collier, c'est difficile. Et quand on est âgé, on dit, bon, c'est bon, la retraite, le figuier, le jardin. Mais non, ça continue, frères et sœurs, ça continue. Et il peut encore y avoir des choses très difficiles à la retraite. Et quand on est âgé, il y a encore des combats redoutables sur la route. Quand on est âgé, quand nos forces diminuent, il y a encore des combats redoutables. Et elle dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, c'est-à-dire... Il y a encore quelqu'un qui nous tend la main. La grâce se renouvelle chaque matin. Voilà, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et sa lumière brille sur le sentier. Et il y a les frères et les sœurs. Et la parole reste là. Et le Saint-Esprit est là, comme un conseiller qui nous permet de respirer encore jusqu'au dernier souffle. Et Paul dit aussi, nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Quand même, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Alors, si je vous demande, prenez une feuille de papier, un crayon, vous avez 5 minutes pour me dire la différence entre la détresse et le désespoir. Ça vous fait réfléchir un peu quand même, hein? En tout cas, les deux, c'est difficile, vous êtes d'accord? Désespoir, c'est difficile, la détresse aussi. Et voilà. Mais il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Puisque Paul dit, nous sommes dans la détresse. Mais pas dans le désespoir. Voilà un serviteur de Dieu. Voilà quelqu'un qui est choisi par Jésus-Christ, qui est oint pour un ministère exceptionnel, qui fonde des églises. Il est dans la détresse. Où est l'erreur? Il n'y a pas d'erreur, frères et sœurs. Il n'y a pas d'erreur. Nous sommes dans la détresse. Et nous sommes. Ce n'est pas que lui. C'est les autres apôtres. C'est le présent de l'indicatif, ça veut dire une situation qui dure. Il ne dit pas « nous avons été », il ne dit pas « nous fûmes », il dit « nous sommes ». Encore maintenant, nous sommes dans la détresse, pas dans le désespoir. Il y a une différence. Est-ce que vous la comprenez, cette différence entre la détresse et le désespoir? Les deux sont difficiles, n'est-ce pas? Mais la détresse c'est l'ombre, le désespoir, c'est le noir. La détresse, je suis à terre. Désespoir, je suis sous terre. Je ne sais pas comment le dire autrement, n'est-ce pas? Il y a une grande différence entre les deux. Je peux être dans la détresse et savoir que quelqu'un pense à moi et prépare le secours. Et pour le moment, je suis dans la détresse. Mais quelqu'un est là. Je ne suis pas un orphelin. Beaucoup de chrétiens vivent comme des orphelins. Nous sommes dans la détresse. Ce n'est pas facile. Mais pas dans le désespoir. Ça veut dire qu'il y a une lumière au bout du chemin qui brille quelque part. Mon regard voit au-delà. Je pense à Paul et Silas dans leur cachot, n'est-ce pas? Situation de détresse quand même. Le cachot, le plus profond cachot, dit le texte. Ils avaient les fers aux pieds. Voilà. et chanter les louanges de Dieu. Je pense que c'est cela. Voilà. Persécuté, mais pas abandonné. Bon, persécuté, on ne sait pas trop, nous, encore. Hein. Ça peut venir. Ça peut venir. Des fois, je me dis, on n'est pas trop persécuté parce qu'on ne dit pas grand-chose. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut dire. Enfin, ça se précise quand même. Hein. Les taux se resserrent. Hein. Vous savez, Portes Ouvertes dit, il y a la persécution marteau et la persécution étau. Là, les taux se resserrent doucement, vous voyez. On va voir la différence entre ceux qui aiment le Seigneur vraiment et ceux qui font semblant. On va voir la différence. Commencez par les enfants, les adolescents. Vous voyez un enfant qui, dans la cour de l'école, dit à ses petits camarades, oui, 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 là, non. Réfléchissez à cette situation. Un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans, un enfant de 16 ans, enfin, enfant, c'est pas un enfant à 16 ans, mais un adolescent de 28 ans, voilà. Oui, 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 là, non. Pourquoi tu dis non, là, d'un coup? Tu n'es pas avec nous? Je peux t'expliquer pourquoi, mais là, je ne peux pas. Donc, si l'enfant dit tout le temps non, il y a un problème. Il faut le soigner, il faut dire, des fois, il faut dire oui, tout ça. Mais s'il dit toujours oui, il y a un problème aussi. Il trahit. Il a chanté dimanche un cantique, et lundi, il fait le contraire. Il y a un problème. Donc, vous voyez, mais si l'enfant dit non, il va le payer. Il risque de le payer. Alors, comment il va faire? S'il y a un deuxième enfant qui dit non en même temps, c'est mieux. Donc, il faut qu'il y en ait déjà un. S'il y en a déjà un, peut-être il y en a un second après, vous comprenez? C'est important. Si les parents, déjà, vivent comme cela. Si les parents n'ont pas peur de dire non à certaines choses. Eh bien, l'enfant, il est moins seul. Il comprend que c'est important. Pas facile, mais c'est important. Vous voyez, voilà, je donne des exemples que chacun peut comprendre pour montrer que ce n'est pas facile non plus aujourd'hui. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Vous voyez comme c'est fin quand même, hein? C'est très fin. Hein? Abattu, c'est pas facile, frères et sœurs. Et donc un chrétien peut être abattu. Et donc si un dimanche vous venez au culte, vous êtes abattu. Quelqu'un vous dit comment ça va ce matin? Super! Vous avez menti. Donc vous avez menti après vous avez chanté des cantiques. Donc c'est un menteur qui chante des cantiques. Ça veut dire quoi ça? Il faut dire je suis abattu ce matin. On ne dit pas forcément « je suis abattu », on dit « c'est un peu dur ce matin, mais grâce à Dieu, ça ira ». On n'est pas obligé de tout dire, vous comprenez? On n'est pas obligé de tout dire. Mais on n'est pas obligé de mentir non plus. Et donc, un chrétien peut être abattu. Même un bon chrétien, même un chrétien fidèle, même un ancien, même un apôtre. L'apôtre est abattu. Ce n'est pas un péché d'être abattu. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un péché d'être triste. C'est pas un péché, c'est un péché de le rester volontairement. Ça oui. Mais si on est abattu, on est abattu. Jésus l'a été. Mon âme est triste au-dedans de moi. Jésus a même désiré partir. Paul a désiré partir. Et quelquefois la pensée peut nous visiter. Ça serait mieux de partir. Ça m'arrive, frères et sœurs, de penser ça. Ce serait mieux de partir. Mais Paul l'a dit, c'est pas un péché. Simplement, il ne faut pas nourrir ça exprès pendant tous les jours de sa vie. Non, pour vous, il vaut mieux que je reste. Et donc, si je reste, le Seigneur va m'aider. Voilà, a priori, c'est le plan de Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'on soit tenté de vouloir partir, c'est tout à fait compréhensible, frères et sœurs. Parce que ces mots ne sont pas des mots pour rire. Il y a derrière des situations qui peuvent être de très grand inconfort. Le contraire de ce qu'on a demandé. Le contraire de ce qu'on a attendu. Et Dieu l'a permis. Et c'est difficile. Pour terminer, je voudrais vous inviter à réfléchir, frères et sœurs, à la différence entre la foi et l'espérance. Ça me paraît très important. C'est-à-dire, c'est pas facile, là non plus. Hein. Comme la détresse et le désespoir, ça ressemble, mais c'est pas pareil. La foi et l'espérance, ça ressemble. Puisqu'il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bon. Donc, c'est un peu la même famille. Hein. Mais quand même, Paul dira, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, s'il y en a trois, c'est que la foi et l'espérance, ce n'est pas pareil. Bon. La foi, c'est très important. Je ne vais pas vous le démontrer. Hein. Mais l'espérance aussi. Charles Péguy l'appelle la petite sœur espérance. C'est-à-dire, presque on l'oublierait. Il dit, l'amour, on ne l'oublie pas. ne va pas dire qu'on le vit, mais enfin, on ne l'oublie pas. La foi, on ne l'oublie pas. L'espérance, on n'y pense pas tout le temps. Charles Péguidi, c'est elle qui va aider les deux autres. Quand l'amour est en difficulté, ça arrive assez souvent, quand la foi est en difficulté. C'est-à-dire, quand ce que vous avez demandé, non seulement n'arrive pas, mais le contraire arrive. Votre foi est en difficulté. Ça, c'est sûr. Comme le psaume 13 l'exprime. Seigneur, pourquoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que tu as dit. Voilà, la foi est en difficulté. L'espérance. Hein. L'espérance est une encre. Une encre de l'âme solide et sûre qui pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Voilà. Et l'espérance, c'est posséder déjà des choses qui nous manquent encore. Et même, il est dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire que même notre salut, vous voyez, nous l'avons reçu par la foi, mais quelque part, il nous manque encore ce salut. Parce que la pleine délivrance, la pleine dimension du salut, on l'a pas encore. On en a reçu les prémices, les arts. C'est pas rien. Mais c'est une petite voix qu'il faut bien entendre, et des fois on ne l'entend plus. Voilà. Et donc l'espérance est vraiment très importante. Quand ça monte très fort, quand il y a des rochers au milieu du chemin, l'espérance va nous permettre de porter nos regards sur des choses qui sont au-delà de ce qu'on voit et fortifier la foi et rendre possible l'amour. Au début du chapitre 5, donc le chapitre qui suit, je vais m'arrêter, hein, au début du chapitre 5, Paul utilise une autre image que l'image du vase et du trésor qui est dedans. Il utilise l'image de la tente. Il dit « nous gémissons dans cette tente ». Quand même, Paul, on n'imagine pas Paul en train de gémir quand même. C'est un prédicateur, c'est un tribun, il tient tête au gouverneur, il fait appel à César, il se bat comme un lion. Mais il dit « nous gémissons ». Deux fois il dit « nous gémissons » au début du chapitre 5. « Nous gémissons dans cette tente, désirant en revêtir une meilleure, c'est-à-dire une céleste ». Vous voyez, ça c'est l'espérance, frères et sœurs. Mais c'est l'espérance, mais ce sont les gémissements aussi, vous comprenez ? Les corps incorruptibles, c'est pas encore, c'est pas tout de suite. Voilà. Et donc nos corps gémissent, on a mal ici, on a mal là. Et des fois ça dure, malgré les médicaments, etc. Et donc nous gémissons dans cette tente, désirant en revêtir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et à la fin du chapitre 4, alors, je termine avec ce verset, il dit « Nos légères afflictions du temps présent ». Pourquoi il dit « légères afflictions » ? Elles ne sont pas légères. On vient de dire qu'elles sont lourdes. La détresse, ce n'est pas léger. Pourquoi il dit « nos légères afflictions » ? Vous voyez comme son regard, vous voyez le regard de la foi. Nos légères afflictions du temps présent produisent en nous un poids éternel de gloire. Car nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux invisibles, les visibles étant passagères et les invisibles étant éternels. Alors, il dit en gros, nos afflictions du temps présent, elles ne sont pas légères, mais elles sont légères comparativement à la gloire à venir. Alors je donne encore une illustration parce que souvent on retient, voilà, quelqu'un a une belle voiture neuve, un galopin arrive avec un clou, il raye la peinture sur toute la longueur de la voiture. C'est pas une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment alors la colère, quoi. Et c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il a fait cela? Combien ça va me coûter? Voilà. Donc, il rencontre d'autres personnes à qui c'est arrivé. Il crée une association de gens à qui on a rayé la peinture de la voiture et il va se battre pour défendre sa cause injuste. Voilà. C'est rien. C'est pas rien, mais c'est rien. Donc, là, dans mon exemple, rayer la voiture d'une voiture, mais c'est rien ou c'est pas rien? Mais c'est rien et c'est pas rien. C'est les deux à la fois, n'est-ce pas? Mais avoir mal à la tête, c'est rien et c'est pas rien. Avoir mal aux reins, c'est rien et c'est pas rien, frères et sœurs. Tout à l'heure, tu as parlé des fardeaux légers. Un fardeau, il est lourd ou il est léger? Ça dépend comment on le prend, vous voyez. Si on est déprimé, il est très lourd. Si on est dans l'espérance, le même fardeau est plus léger. C'est comme ça. Les soignants le voient quand ils demandent aux personnes d'évaluer leur douleur, vous savez. Votre douleur, sur une échelle de 1 à 10, elle est à combien? La personne déprimée dit 8. Pour la même douleur, la personne confiante dit 3. Vous voyez? La perception des choses. La perception. Nous regardons non pas aux choses invisibles, non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses de détresse, nous les voyons. Les choses d'espérance, nous les regardons. Songez à cela, frères et sœurs. Paul et Silas, dans leur cachot, voyaient le mur noir et les chaînes. Ils les voyaient. Pas ne pas les voir. Ce qui est dur, on ne peut pas ne pas le voir, on le voit. Mais on ne le regarde pas, on regarde aux choses éternelles. Donc, voyons les choses de la terre, belles ou tristes, dures ou faciles. Voyons-les, mais regardons, portons notre regard, et peut-être même contemplons, si nous y arrivons, les choses éternelles. Elles vont se refléter sur notre visage et remplir notre cœur de louanges. Je vais prier. Seigneur, tu nous as ramenés auprès de Paul, où tu l'as amené jusqu'à nous. Et nous sentons qu'il était un homme, un être humain comme nous, exactement. Merci pour la vérité de ce qu'il a révélé, y compris de ses gémissements, de sa détresse, de son abattement. Mais merci parce qu'il est resté dans la foi. Et nous aussi, nous restons dans la foi. Et nous aussi, nous voyons les occasions de tristesse et de douleur. Mais nous regardons, Seigneur, aux choses qui ne périssent pas. Merci pour le trésor que tu as mis dans les vases de terre. Trésor impérissable. Un jour, le soleil s'éteindra. Mais toi, tu nous as révélé une lumière qui ne s'éteindra jamais. Seigneur, que ton esprit scelle dans nos cœurs l'héritage qui ne se corrompt pas, que les voleurs ne peuvent détruire, que la teigne ne peut ronger, la rouille. Seigneur, tu es notre trésor et que notre cœur soit avec toi, toujours pour vivre ce que tu nous donnes de vivre avec Jésus. Amen. Amen.